France Culture.
Et c'est le journal de la rédaction. Jeanne Serin, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. L'Ukraine visée par une attaque massive de missiles et de drones. La preuve que la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est attendu demain en Floride pour une rencontre avec Donald Trump. 72 heures de trêve et l'espoir de la fin d'un conflit régional meurtrier. La Thaïlande et le Cambodge ont signé un accord de cessez-le-feu surprise, mais qui reste fragile. En France, un deuxième sans-abri retrouvé mort à Nantes en moins d'une semaine. Les centres d'hébergement d'urgence prolongent leurs horaires d'ouverture, mais certains sans domicile préfère s'en détourner. Enfin, c'est un projet colossal de restauration qui attend le Louvre et débutera dès 2026. Nous y reviendrons avec notre invité à la fin de ce journal. Il y voit la preuve que la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réagit à l'attaque de drones et de missiles russes qui a visé l'Ukraine la nuit dernière. Une attaque massive selon les autorités avec des explosions entendues dans la région de Kiev qui ont fait au moins un mort. D'autres régions ont également été ciblées par des missiles. Bonjour Emmanuel Chaz.
Bonjour.
Correspondante de France Culture en Ukraine, l'attaque contre la capitale, Emmanuel, est toujours en cours.
Oui, Kiev est une nouvelle fois ciblée par la Russie. Selon Volodymyr Zelensky, ce sont quelques 40 missiles et 500 drones qui ont déjà été lancés contre la capitale ukrainienne. Et les attaques se poursuivent. Il y a au moins 28 blessés et des personnes pourraient toujours être bloquées sous les décombres alors que les équipes de secours sont sur place. Des bâtiments résidentiels ont été frappés de plein fouet par des drones et des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la ville. Les infrastructures énergétiques de Kiev, déjà exsangues suite aux frappes précédentes, n'ont pas tenu et une partie de la ville est privée d'électricité. Des milliers de foyers n'ont également pas de chauffage, annonce le maire Vitali Klitschko.
Et cette attaque, Emmanuel, intervient à la veille d'une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump.
Oui, Volodymyr Zelensky dénonce d'ailleurs ces frappes ce matin. Il les qualifie d'attaques brutales et de seule réponse de la Russie aux efforts de paix. Alors que sur le volet diplomatique, le président ukrainien s'est montré optimiste sur sa rencontre prochaine avec Donald Trump. Il a annoncé que 90% de l'accord cadre en vue de la paix était satisfaisant côté ukrainien, même si la question des cessions territoriales n'est toujours pas réglée. Il s'est également montré ouvert à la tenue d'un référendum si la Russie acceptait un cessez-le-feu d'au moins 60 jours.
Emmanuel Chaz, correspondante de France Culture en Ukraine. Ils devraient pouvoir passer le nouvel an chez eux. Des milliers de Thaïlandais et de Cambodgiens, réfugiés depuis plusieurs jours dans des tentes à la frontière entre les deux pays, ont appris ce matin la signature d'un accord de cessez-le-feu. Une annonce surprise après 20 jours d'affrontement, près de 50 morts et des centaines de milliers de déplacés. Bonjour Marie Martirossian.
Bonjour.
Alors cette signature ouvre la voie à la fin d'un conflit frontalier meurtrier dans la région.
Oui, un conflit dont la trêve est arrivée donc après plusieurs jours d'intenses négociations. Ce texte prévoit que les civils des deux pays puissent rapidement rentrer chez eux. Il évoque aussi le déminage des régions frontalières et la libération de 18 soldats cambodgiens. Depuis de longues années, donc, les tensions sont nombreuses entre la Thaïlande et le Cambodge. Elles se sont intensifiées en 2025. En juillet dernier, des affrontements armés à la frontière ont forcé de nombreux civils à fuir. Un premier accord de cessez-le-feu en octobre, notamment grâce à l'aide de Donald Trump, n'a pas duré longtemps puisque les combats ont ensuite repris avec notamment des frappes aériennes thaïlandaises à l'intérieur du Cambodge.
Et au cœur de ce conflit, Marie, il y a donc cette frontière longue de 800 km tracée pendant la période coloniale française et sur laquelle se trouve un temple ancien.
Oui, c'est ce temple khmer de Preah Vihear qui date du 11e siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui cristallise une bonne partie des tensions. Il est situé sur le territoire cambodgien, bien tout près de la frontière, mais la Thaïlande conteste l'autorité du Cambodge sur les territoires qui entourent ce temple. En fait, les deux pays se disputent toutes ces zones limitrophes, et ce depuis le tracé de cette frontière en 1907, quand le Cambodge était encore sous protectorat français. L'accord de cessez-le-feu, donc signé aujourd'hui, ne tranche pas cette question, ce qui fait craindre une potentielle reprise des affrontements.
Marie Martirossian de la rédaction internationale de Radio France. Et ce midi, l'Union européenne exhorte la Thaïlande et le Cambodge à mettre en œuvre de bonne foi cet accord de cessez-le-feu. Le feu. En Grèce, plus de 130 migrants ont été secourus ce matin par les gardes-côtes, ce qui porte à plus de 840 le nombre de personnes sauvées en 5 jours au large de la Crète. Les autorités n'ont pas encore précisé la nationalité des personnes qui se trouvaient sur les embarcations. La Crète est un point de passage pour les migrants qui tentent de quitter la Turquie ou encore la Libye, mais au prix d'une traversée très périlleuse. Début décembre, 17 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation au large de l'île. Après la mort d'un sans-abri dimanche dernier, le corps d'un deuxième homme a été découvert à Nantes dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit d'un homme de 30 ans, mort de froid. Cette semaine, à Nantes, comme dans le reste du pays, les températures sont descendues sous la barre des 0 degrés la nuit. Alors pour répondre à cette vague de froid, des centres d'hébergement d'urgence pour les sans-domicile fixe sont ouverts. Malgré tout, ils sont nombreux à refuser les nuits en foyer ou en gymnase, quitte à risquer leur vie. Reportage à Saint-Nazaire, Hélène Roussel.
Dans cet accueil de jour, ils sont nombreux à venir le matin pour un café, une douche chaude, comme Maurice, qui vit dans sa voiture.
J'avais 4 balles, je suis parti chercher du pétrole et que j'ai allumé le chauffage et puis qu'il faisait meilleur.
Un petit chauffage d'appoint alors.
Dans la voiture en plus, c'est vite réchauffé. Moins un, ça va.
Son copain de rue, Patrick, 73 ans, dort lui dans un camion.
L'idée d'aller par exemple dans un gymnase ou dans un foyer.
J'ai pas envie de retrouver de la violence, je pouvais pas dormir sans vous faire piquer un truc. Ou... Je préfère rester dans mon petit coin, même si je suis pas chauffé.
Et puis il y a tous ceux qui dorment sous les porches du centre commercial ou dans des recoins sur le port. Krishna, travailleur social à l'accueil de jour, les repère très vite.
Ah, ils sont frigorifiés, ils sont épuisés, qu'on sent de l'agacement.
Problème numéro 1 selon lui, le 115, saturé.
C'est facile de notre place de dire vas-y, lance-toi, mais de leur côté, d'être tous les jours face à un refus, à un moment donné, ils se démobilisent.
On peut pas les obliger à venir au centre d'hébergement.
Yves, de la protection civile, gère le centre d'hébergement d'urgence. Tous les soirs, il reste une dizaine de places.
Il y a des règles à respecter, l'ordre de couchage, lever à telle heure, etc. Quand on est dans la rue, bon, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ils ont les cartons, ils ont les sacs de couchage. Pour eux, ils se considèrent à l'abri. Pour nous, oui, c'est une impuissance.
Mais oui, nous confie Maurice, la liberté, c'est tout ce qui me reste.
Hélène Roussel, et en 2024, plus de 900 personnes sans-abri sont mortes en France, selon le collectif Les Morts de la Rue. La mobilisation est bien loin de ce que le pays a connu au pic de la crise avant Noël, mais des agriculteurs continuent de bloquer aujourd'hui les routes. Les principales actions se déroulent en Occitanie, où des blocages sont en cours à l'appel de la coordination rurale sur l'A75 en Lozère et sur l'A64 en Haute-Garonne. Des agriculteurs toujours mobilisés contre la stratégie du gouvernement pour venir à bout de la dermatose nodulaire contagieuse et l'abattage de l'ensemble du troupeau dès le premier cas confirmé. C'est un nouveau coup de rabot pour les aides à l'embauche d'apprentis. Cette prime incitative est versée aux employeurs. Depuis février, elle est de 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés. Au-delà, elle s'élève à 2 000 euros. Mais faute de budget, le gouvernement a décidé de durcir les conditions pour percevoir cette aide en la réservant aux petites et moyennes entreprises. Laurine Benjebria.
À partir du 1er janvier, seules les entreprises de moins de 250 salariés auront le droit à cette prime, à condition de prendre un apprenti qui prépare un diplôme équivalent au bac ou en deçà, comme un CAP ou BEP. Le montant ne changera pas, 5 000 euros pour la première année et 6 000 si l'apprenti est en situation de handicap. Pas d'aide, en revanche, pour les grandes entreprises ni pour les étudiants en licence ou master. Le gouvernement justifie sa décision par l'absence de budget. Cette version plus restrictive est donc valable pendant toute la durée de la loi spéciale, au risque d'accentuer le coup de frein sur l'embauche des apprentis constaté depuis cet été. Près de 50 000 contrats en moins entre juin et septembre, liés en grande partie à la baisse de l'aide adoptée en début d'année. La prime avait alors été rabotée de 1 000 euros pour les PME et de 4 000 pour les entreprises de plus grande taille.
Les explications de Laurine Benjebria. A noté par ailleurs que la loi spéciale votée cette semaine par le Parlement a été promulguée ce matin au Journal officiel. Elle entre donc officiellement en vigueur. Toute cette semaine, nous nous intéressons avec notre invité du journal de midi 30 au patrimoine et aux défis de la restauration. Coup de projecteur aujourd'hui sur le Louvre, marqué par un spectaculaire cambriolage le 19 octobre dernier. Le plus grand musée du monde est confronté à de graves problèmes structurels et à un climat social très tendu. Les salariés mobilisés dénoncent notamment la dégradation du bâtiment alors que le musée est toujours dans l'attente de travaux de restauration prévus dans le cadre du projet Nouvelle Renaissance. Pour en parler ce midi, notre invitée est Marie-Alix Molinier-Handlauer. Elle est géographe des musées à Sorbonne Université et elle est interrogée par Benoît Grossin.
Marie-Alix Molinier-Handlauer, bonjour.
Bonjour.
Si le musée du Louvre est dans la tourmente aujourd'hui, c'est parce qu'il est victime uniquement de son succès, d'une surfréquentation ou en raison aussi d'un manque d'entretien régulier?
C'est la combinaison en fait des deux facteurs, la surfréquentation et la question de l'entretien aussi du bâtiment. Peut-être qu'il faut rappeler que le musée du Louvre au départ est un palais royal, donc qui date du XIIe siècle, construit sous l'ère de Philippe Auguste. Et progressivement, il s'est adapté. On l'a transformé au musée à la fin du XVIIIe siècle. Et il a connu véritablement de gros travaux de réaménagement à l'époque de François Mitterrand, donc en 1989, avec le projet Pyramide. Ce projet date d'il y a plus de 30 ans maintenant, presque 40 ans. Et donc, il n'y avait pas forcément de grande planification, de projet, d'aménagement, de prise en compte des défaillances qu'on pouvait trouver sur certaines, dans certaines salles. Les questions, justement, très basiques, hein, des WC, la question de l'usure aussi de certains planchers. Il faut noter tout de même qu'en 2016, il y avait eu une réhabilitation et un travail assez important qui avait été fait sous la pyramide en termes de signalétique, sous l'ère donc de Jean-Luc Martinez. Et là, donc, on arrive un peu à un modèle à bout de souffle où l'imaginaire et la réputation du musée du Louvre connaît une grosse fréquentation qui se focalise quand même assez majoritairement dans certains endroits du musée au niveau de l'aile de Nons, hein, côté sud. Et cette surfréquentation n'aide pas forcément dans l'entretien du quotidien, bien que quand on visite le musée, on voit que certaines salles continuent à être fermées pour tenter de pouvoir les entretenir au fur et à mesure.
Que dire du projet Nouvelle Renaissance annoncé par le président Emmanuel Macron ?
Ce projet, en fait, il arrive à une temporalité intéressante, hein, plus de 30 ans donc après les grands travaux sous Mitterrand. L'idée de ce projet d'ouvrir le musée sur la ville, avoir une nouvelle entrée et peut-être repenser cette entrée, non pas unique, hein, on dit souvent que la pyramide est une entrée unique, non, on peut rentrer par d'autres endroits au musée du Louvre, mais penser cette ouverture sur l'est de la ville en travaillant la relation à la ville est tout à fait intéressante. Après, le problème dans ce projet, c'est la question de la place de la Joconde, qui est quand même la grande star hein, du musée du Louvre, qui vaut cette surfréquentation dans ce lieu. Et donc, proposer une salle en souterrain, en zone inondable, et puis en zone aussi archéologique, avec des potentielles fouilles archéologiques qui vont sûrement se mettre en place si on commence à creuser ce site, interpelle en tout cas quand on parle de la pièce la plus précieuse du musée du Louvre.
Le Louvre est le symbole du vaste chantier de restauration des musées et grands monuments, de ces grands travaux qui réclament d'importants financements en France.
Oui, c'est clairement un fer de lance, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, le musée du Louvre. On est sur le symbole emblématique de la culture française, du patrimoine français. Donc évidemment, les autres musées se positionnent et demandent aussi de l'aide, puisque le Louvre n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société, dans le monde de la culture et dans nos services publics. C'est un symbole lié, il est intimement lié au pouvoir politique. On dit souvent que le Louvre est le fait du prince, donc il dépend de la présidence de la République. Il y a un lien très très fort entre ce musée et le pouvoir. Donc c'est un cas assez particulier dans le paysage muséal français. Mais il n'empêche que l'état dans lequel il se trouve interpelle et ne laisse que présager et ne laisse que entreapercevoir ce qui peut se passer dans les musées un peu plus territoriaux. Oui.
Dans des conditions où le ministère de la Culture va être confronté à un mur d'investissement.
Oui, là, le ministère de la Culture va être confronté à de fortes demandes. Les questions des subventions publiques vont être discutées. On le voit autant donc dans les musées, dans les universités françaises, les investissements au niveau de l'État sont, les dotations de l'État sont en baisse. Donc, ce mur d'investissement, va falloir trouver le bon arbitrage pour pouvoir permettre à ces musées de pouvoir être réhabilités et remis en forme, en quelque sorte. Le financement de la restauration des musées est totalement possible. C'est juste allouer les moyens nécessaires, notamment au niveau de l'État, pour faire en sorte que ces réhabilitations puissent être les plus efficaces possibles. Ce financement repose également par l'augmentation du prix des billets pour les visiteurs extra-européens, qui va avoir lieu en janvier 2026. Ce qui interpelle, sachant que le musée du Louvre est quand même un musée qui a une vocation universelle, qui souhaite être ouvert, que sa collection est constituée en grande partie aussi d'œuvres d'art qui viennent de ces territoires-là. Et c'est considéré, en fait, ces populations extra-européennes comme un tout. C'est pas forcément considéré les étudiants ou les doctorants ou d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'accéder à ce prix-là au musée du Louvre. Et donc, cela remet en cause le principe d'égalité d'accès à la culture et à l'art.
Marie-Alix Molignan-Lauer, géographe des musées à Sorbonne Université. Un entretien à retrouver dans la rubrique L'Info culturelle sur le site de France Culture et l'application Radio France. On termine ce journal avec un mot du temps. Les Pyrénées-Orientales sont maintenues en vigilance orange, pluie et inondation jusqu'à ce soir. Un ciel voilé en Nouvelle-Aquitaine, le temps est sec et lumineux sur le reste du pays. Quant aux températures, le mercure frôle le 0 degré sur le quart nord-est. Il fait 1 degré à Belfort, 2 à Arras, 3 à Auxerre. Les températures sont plus douces au sud, entre 7 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Nina Malré à la console, Félix Delacour.